Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez, en principe, la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite prêché, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour toute personne qui l'écoute.
Aujourd'hui, c'est notre frère Marc qui prêche et alors vous vous doutez que nous allons voir une prédication sur l'épître de Pierre, la deuxième, et donc c'est ce que nous allons lire maintenant, 2 Pierre chapitre 3. Nous lisons tout ce chapitre qui sera le fondement de la prédication, en particulier la deuxième partie, puisque la première a déjà été vue il y a quelques semaines. 2 Pierre, chapitre 3. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. En toutes deux, je fais appel à des souvenirs pour éveiller en vous une claire intelligence, afin que vous vous souveniez des prédictions des saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur transmis par vos apôtres. Sachez, avant tout, que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, pleins de railleries, qui marcheront selon leur propre convoitise et diront: où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. En effet, ils oublient volontairement qu'il y eut autrefois des cieux et une terre qui, du milieu de l'eau et formée par l'eau, surgit à la parole de Dieu, et que, par les mêmes causes, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre actuels sont gardés en réserve pour le feu, en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. Mais il est un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes, attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache et sans défaut, dans la paix. Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres où il parle de ces sujets et où se trouvent des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme elles le font du reste des Écritures pour leur propre perdition. Vous donc, bien-aimés, qui êtes prévenus, soyez sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à lui la gloire maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. et deux textes complémentaires dans l'Ancien Testament, prophète Ésaïe, chapitre 65, les versets 17 à 25. Ésaïe 65, verset 17. Car je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les événements du début. Ils ne remonteront plus à la pensée. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je crée. Car je crée Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus là de nourrissons vivants quelques jours seulement, ni de vieillards qui n'accomplissent pas ses jours. Car le plus jeune mourra à 100 ans et le pêcheur âgé de 100 ans sera considéré comme maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vergers et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas pour la nourriture d'un autre. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne peineront pas en vain et n'auront pas des enfants pour l'épouvante, car ils formeront la descendance des bénis de l'Éternel, et leur progéniture sera avec eux. Et alors, avant qu'ils m'invoquent, moi je répondrai. Ils parleront encore que moi j'exaucerai. Le loup et l'agneau auront un même pâturage, le lion comme le bœuf mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Et dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ qui parle de la fin, en Matthieu 24, les versets 35 à 44. Matthieu, chapitre 24, 35 à 44. Matthieu 24, 35, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et merci à Marc de s'occuper de nous et de nous prêcher la parole de Dieu. Merci beaucoup.
Bonjour à tous ceux que j'ai pas encore vus. On va donc terminer, Dieu voulant, cette deuxième épître de Pierre qui nous suit depuis quelques années déjà. C'est, Dieu voulant, la dernière prédication qui va reprendre plus spécifiquement les versets 10 à 18 dans ce troisième chapitre qu'on a lu en entier. Si aujourd'hui je devais résumer cette épître en une phrase, je dirais qu'elle nous enseigne comment vivre dans l'attente et dans la perspective du retour du Seigneur. Dans l'attente, comment est-ce que, visiblement, le Seigneur n'est toujours pas revenu, donc comment est-ce que je suis appelé à mener ma vie de chrétien jusqu'au moment où il va revenir? Et dans la perspective, comment la perspective du retour du Seigneur doit impacter mon mode de vie d'aujourd'hui? Cette épître, cette deuxième épître de Pierre est pour moi un condensé de ces deux questions. Le retour de Jésus est vraiment un point qu'en fait, plus j'approfondis cette lettre, plus je me rends compte que c'est présent tout au long dans la pensée de Pierre qui rédige cette lettre. Et ça devient encore plus central dans le troisième chapitre. Mais il le nomme déjà dans le premier chapitre de manière explicite au verset 16, chapitre 1. Et il va le nommer de manière régulière dans le chapitre 3. De manière un peu moins explicite, il va aussi le nommer au chapitre 2, au verset 9, par exemple. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment tout au long de cette épître. Donc cette lettre, elle nous amène vraiment, Pierre nous enseigne comment mener une vie fructueuse, sainte, dans l'attente du retour du Seigneur, et quel impact cette perspective du retour du Seigneur doit avoir dans notre vie actuelle. Dans la prédication précédente, on avait vu que Pierre avait cherché à tordre le cou à un mensonge en particulier. Est-ce que vous vous rappelez duquel? Une phrase que j'avais dit quelquefois. Ainsi il en est aujourd'hui. Ainsi il en a toujours été. Ainsi il en sera toujours. Lorsque soudain, notre conscience ou celle d'un être humain s'éveille en se demandant « Mais quel est le but de ma vie? Quel est le rôle? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus élevé ?» Le monde répond « Non, non, rendormez-vous. Il n'y a rien à craindre. Vous voyez bien que rien ne change. » Tout a toujours été comme ça et tout sera toujours comme ça. Mais Pierre nous dit non, c'est pas vrai. Il veut l'oublier volontairement que ce monde est le résultat d'un acte de création de Dieu et que le jugement s'en vient. Le jour du Seigneur. Oui, un acte hors norme pour lequel le déluge et Sodome et Gomorre n'ont été qu'une ombre, une image en avance et surtout une mise en garde. C'est pourquoi Pierre nous rappelait l'importance, dans la prédication précédente, dans le début du chapitre, de nous nourrir de la parole de Dieu, de la méditer, de nous en souvenir, afin de purifier notre intelligence des mensonges de ce monde, de vivre une vie basée sur les réalités révélées de la parole et non sur les mensonges que veulent nous amener ce monde, particulièrement sur ces vérités, sur cette vérité de la perspective du retour du Seigneur. Le retour du Seigneur, le jour du Seigneur, c'est là qu'on en arrive maintenant. Mais avant d'entrer dans le texte, vous savez que dans certains milieux chrétiens, le retour du Seigneur prend tellement de place que il fait presque partie de toutes les prédications, il fait presque partie de c'est un thème théologique central dans leur vie de foi, à tel point que je lisais encore dernièrement quelqu'un qui disait qu'aujourd'hui, on serait plus censé prêcher comme au XXe siècle, donc comme le siècle dernier, parce qu'on est plus proche du retour du Seigneur. Alors ça devrait changer nos prédications. Mais en fait, c'est la parole dans son entier qui doit être prêchée. Et donc je pense que là, ils vont trop loin en fait. Mais d'un autre côté, en lisant cette lettre, je me pose la question, est-ce que le retour du Seigneur a dans notre vie la place qui lui revient ? Vous vous souvenez, on a parlé des impératifs et des indicatifs au tout début de notre série sur cette épître. Qui c'est qui se rappelle ce que c'est un indicatif, un impératif?
Un impératif, oui. C'est un commandement.
Et oui.
Voilà, l'indicatif, c'est quelque chose
qui est accompli. Hein. Oui. Un indicatif, c'est ces passages dans la parole, merci, qui nous disent quelque chose qui a été fait par Dieu et auquel on ne peut rien changer. Ou ça peut nous annoncer une réalité comme le retour de Christ. C'est une réalité, on ne peut rien y changer, ni nos bonnes œuvres, ni nos mauvaises œuvres ne peuvent y changer quoi que ce soit. De même que le salut est par grâce, par exemple. C'est un indicatif. Et les impératifs sont qu'est-ce que je suis appelé à vivre, qu'est-ce que je suis appelé à faire dans ma vie de chrétien. Et c'est très important qu'on se rappelle toujours que les impératifs, qu'est-ce que la parole me demande de faire, doit toujours se reposer sur les indicatifs. Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Qu'est-ce qu'il a accompli? Donc dans le chapitre 1, Pierre s'était appliqué, par exemple, à nous montrer que ce salut par grâce dans lequel Dieu a pourvu à tout doit nous amener ensuite à faire tous nos efforts pour grandir dans une vie de piété, pour grandir dans une vie de sainteté. Il nous amenait sept vertus dans lesquelles on doit grandir, la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance, la piété, la fraternité et l'amour. Ça, c'est les impératifs qui doivent reposer sur l'indicatif du salut que Dieu a accompli pour nous. Et dans le passage sur lequel je vais prêcher ce matin, Pierre utilise cette fois-ci le retour du Seigneur comme un indicatif puissant de motivation pour vivre une vie sainte, sans défaut, sans tâche, sur nos gardes et dans une croissance dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur. Le retour du Seigneur est donc vraiment une thématique centrale dans cet épître. Et il a une place particulière dans cette réflexion, comment vivre ma vie dans ce temps qui me sépare du retour du Seigneur. D'où cette question, en fait, que j'aimerais nous laisser déjà maintenant au début, à prendre avec dans la prédication. Est-ce que le retour du Seigneur a sa juste place dans ma vie? Je ne vais pas vous donner de réponse, il n'y a pas de norme, mais c'est un point sur lequel j'aimerais vous inviter à méditer ce matin et à donner une réponse en fin de prédication, pour vous-même bien sûr. Rentrons dans le texte. Au verset 10, la première partie, il nous est dit « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur ». Donc on l'a compris, le jour du Seigneur, c'est le jour du retour de Jésus-Christ qui sera accompagné par le jugement de toute la terre. Ainsi, ce jour viendra comme un voleur. Mais ce n'est pas un enseignement isolé que tout d'un coup Pierre nous donne. On le retrouve dans la bouche de Jésus, dans Matthieu 24, 36 à 44, comme on l'a lu au début. On le retrouve encore dans la bouche de Jésus en Luc 12, 39, sous la plume de Paul, en 1 Thessaloniciens 5, 2, et pour finir, de nouveau dans la bouche de Jésus, mais sous la plume de Jean, en Apocalypse, chapitre 3, verset 3, et chapitre 16, verset 15. Mais Jésus nous parle aussi d'un autre élément qui nous parle de cette soudaineté. Dans le texte qu'on a lu en introduction, il nous parle de Noé. Noé qui croit ce que Dieu lui affirme, qu'un jugement va venir, et qui lui demande de construire une arche. Et Noé construit cette arche. Il s'attend à ce que Dieu a annoncé arrive. Et pour les autres, il n'y avait aucun moyen de comprendre ce que faisait Noé s'il ne croyait pas ce que Noé disait. Il construit une arche, il n'y a pas d'eau, etc. Mais soudain, Dieu a fermé la porte de l'arche et le déluge est arrivé. Et pour les gens qui n'ont pas cru à la prédication de Noé, ça a été quelque chose de très soudain. Mais en même temps, pour Noé, ça n'a pas été si soudain que ça, parce qu'il croyait dans ce que Dieu avait annoncé et il s'y préparait par la construction de cette arche et en avertissant ses contemporains. Et ça, c'est justement aussi ce qui nous encourage. D'un côté, ces textes nous amènent, nous poussent à rester éveillés spirituellement, à nous en remettre au Seigneur, à vivre une vie spirituelle active, à ne pas nous endormir. Et en même temps, Noé n'a pas été surpris par la venue du déluge. Et en fait, si on continue 1 Thessaloniciens 5, 4 à 5, il est justement dit « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. » Et on retrouve justement cet entrelacement beaucoup dans l'épître de Pierre entre ce que Dieu a fait pour nous et le fait qu'on ne sera pas surpris par son retour et en même temps, ces avertissements qui nous disent « Alors, restez réveillés spirituellement, ne vous endormez pas. » On a toujours cette part active qu'on prend dans l'œuvre de Dieu. Et c'est ce qui nous réconforte, c'est que c'est Jésus qui nous fait sortir des ténèbres, qui nous a fait sortir des ténèbres pour nous amener à son admirable lumière. Quel encouragement pour nous! On est fils et filles du Père des Lumières, frères et sœurs de la lumière du monde. Ce jour ne nous surprendra pas. Mais en même temps, le Seigneur, au travers de Pierre, au travers des paroles de Jésus qui nous sont rappelées, nous dit « Restez éveillés, restez sur vos gardes ». Donc non seulement ce jour ne sera pas annoncé aux nouvelles, ou sur les réseaux sociaux, ou par les influenceurs, ou par l'intelligence artificielle, ou au téléjournal, mais en plus, il sera bouleversant au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Verset 10 et verset 12b. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Et la deuxième partie du verset 12, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Les cieux passeront avec fracas. Vous imaginez ce ciel étoilé, si beau, dont les dimensions nous dépassent complètement, dépassent notre entendement, prendre fin dans un fracas inouï. Apocalypse, chapitre 6, versets 13 à 17, nous donne aussi une description qui enrichit encore notre imaginaire. « Je regardais, quand il ouvrit le sixième sceau, il y eut un tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, le ciel se retira tel un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent écartées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. » Et il disait aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau, car le grand jour de leur colère est venu, et qui pourrait subsister ?» Pour ceux qui s'en rappellent, il y a eu en 2010 une éruption d'un volcan qui s'appelait Eyjafjallajökull, j'ai dû m'entraîner, qui est en Islande, qui a projeté des cendres jusqu'à 8000 mètres d'altitude. Et qu'est-ce que l'être humain a pu faire ? Rien. 100 000 vols européens cloués au sol, 10 millions de passagers qui n'ont pas pu prendre l'avion. Et on ne parle que de l'éruption d'un volcan. Ou pensons à ces incendies qui ont eu lieu en 2024 au Brésil, dévastateurs, 30 millions d'hectares ravagé par les flammes, un vrai drame, et les pompiers incapables de l'arrêter. Ces choses sont impressionnantes, mais à l'échelle de ce dont on parle ici, c'est rien du tout. À combien plus forte raison les événements cataclysmiques décrits dans ces passages et dans d'autres seront impressionnants au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Mais ces événements cataclysmiques ne sont pas le plus important. Faisons une petite digression. Il y a la question qui subsiste, si on s'intéresse un petit peu à ces textes, est-ce qu'il s'agit d'un embrasement, une description littérale de ce qui va se passer, la terre réellement détruite par le feu, ou est-ce qu'il s'agit d'images pour nous parler de l'intensité du jugement de la terre et de toutes les œuvres qu'elle contient ? Je n'ai pas de conviction certaine à vous partager et je pense qu'en fait, ce n'est pas si important que ça. La plupart des commentateurs que j'ai regardés sont partagés entre les deux interprétations et encore une fois, ça ne me paraît pas si important. Parce qu'en fait, c'est des images, que ce soit des images ou une description de la réalité, au final, l'ampleur du bouleversement sera en fait accompagnée par le jugement final qui accompagnera le retour de Christ. Et c'est là-dessus, en fait, que ces choses doivent fixer nos regards. Un bouleversement cataclysmique, donc des bouleversements cataclysmiques qui pourront avoir lieu et sur lesquels Pierre met l'accent, on voit que, et on retrouve ça dans l'Apocalypse, que c'est la colère de l'agneau. Ce sera donc du jamais vu jusque-là. Et cela n'aura plus jamais lieu après. Un temps où même les plus riches, les plus puissants, de ce monde supplieront que les montagnes tombent sur eux plutôt que de faire face à la colère de celui qui est sur le trône et de l'agneau. Mais pas seulement les riches et les puissants, mais aussi les esclaves, nous dit le texte d'Apocalypse, les hommes libres. On pourrait rajouter les grands, les petits, les hommes, les femmes, les vieillards et les enfants. Tous et tout sera jugé en ce jour. Qui que tu sois aujourd'hui, adulte ou enfant, puissant ou faible, riche ou pauvre, intelligent selon ce monde ou non, avec plein d'amis ou pas, avec du succès ou non, homme ou femme, quelle que soit ton ethnie, tu as besoin de Jésus-Christ. Car quel homme avec un grand H de l'humanité résistera en ce jour-là? Le président des États-Unis et son dôme d'or qu'il veut développer, celui de Russie et ses missiles nucléaires, celui de Chine et sa puissance financière et militaire qui ne cesse de croître, celui de France, plus proche de nous, l'homme le plus riche du monde, le survivaliste dans sa forêt ou dans sa maison autonome, le peuple suisse dans ses bunkers, celui qui a un bon compte en banque, un bon travail, une bonne retraite, celui qui mène une vie healthy, celui qui a une jolie voiture ou puissante, une belle montre, les derniers habits à la mode, une IA incroyablement développée, un vaste cercle d'amis, un large réseau de gens qui lui doivent un service? Non. Seul Jésus-Christ, homme-Dieu, et ceux qui sont cachés en lui seront préservés. Seul Jésus-Christ et ceux pour qui il a payé à la croix. Seul Jésus-Christ et ceux qui ont placé leur confiance en lui pour être sauvés. Seul Jésus-Christ et ceux pour qui il est écrit « Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Verset 13. Alors si vous n'êtes pas chrétien aujourd'hui, ne repoussez plus. Reconnaissez votre besoin de Jésus-Christ. Placez votre confiance en lui comme Seigneur et Sauveur. Le retour du Seigneur viendra de manière inattendue et il sera accompagné du jugement. Vous voyez, il est parlé de la colère de l'agneau. Mais pour le chrétien, c'est la colère de celui qui est allé donner sa vie pour nous, prendre notre jugement sur la croix, souffrir notre enfer sur la croix. Changerait-il d'avis? Reviendrait-il en arrière après avoir tout accompli? Non, sa colère ne viendra pas sur ceux qui ont placé leur confiance en lui, qui ont reconnu sa bonté, sa miséricorde, son amour et sa grâce. Pour eux, il leur est promis de nouveaux cieux et une nouvelle terre, dans laquelle la justice régnera. En d'autres termes, le paradis. Plus de violence, plus de vol, plus de guerre, plus de paroles méchantes et blessantes, plus de paroles malsaines, plus de maladies, plus de morts. Juste une vie épanouie, au-delà de ce qu'on peut rêver et imaginer, dans la présence du Dieu qui nous a aimés par-dessus tout. Et vous savez, parfois, il me semble que les chrétiens, on ne se réjouit pas assez du ciel. Parce que on a, je ne sais pas d'où ça vient, mais une sorte d'imaginaire que le ciel, ce serait un lieu tout blanc, ennuyeux, dans la présence d'un Dieu silencieux, à l'écoute de la louange de son peuple, et qui écoute cette louange parce qu'en fait, il n'a pas grand-chose d'autre à faire. Mais quelle erreur! Quelle méconnaissance souvent involontaire de qui est Dieu. Ce n'est pas parce qu'il le faut qu'on le louera, mais c'est parce qu'on ne pourra pas faire autrement face à qui il est. Ça jaillira. Vous savez, c'est un peu comme quand on vit quelque chose de spécial dans notre vie. Un événement ou quelque chose qu'on a vu ou une discussion qu'on a eue qui nous a vraiment réjouis et on a envie d'en on se réjouit de rentrer à la maison pour pouvoir en parler aux autres. C'est pas parce qu'on est forcé de le faire qu'on va aller le faire. C'est parce qu'en fait, on a envie, on a ce désir et face à la gloire, face à combien Dieu est merveilleux, ce sera le désir qu'on aura. On le fera pas parce qu'il le faut bien, on le fera parce qu'on sera émerveillé par qui il est. Ce sera pas par crainte, mais parce qu'il est merveilleux. Jésus-Christ, sur la terre, est-ce qu'il aurait pu trouver un tel plaisir dans son Père si, avant son incarnation, il l'avait connu comme un Dieu ennuyeux, morne, silencieux, sans affection, sans humour, sans vivacité, indifférent. Les anges ne le louent pas comme un programme qui aurait été programmé pour louer Dieu, mais c'est le seul réflexe valable devant Dieu, tellement il est merveilleux. Il est extraordinaire au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. David disait qu'un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour dans la présence de Dieu est préférable à 1000 journées passées dans le plus merveilleux des lieux que vous pouvez imaginer ici-bas. Et prenez les plus belles qualités que vous pouvez trouver dans votre entourage, dans votre famille, dans vos amis. Et rappelez-vous qu'elles sont toujours qu'un pâle reflet de celui qui les a données. Vous aimez peut-être la tendresse d'une personne, mais cette tendresse nous parle d'une tendresse plus grande, celle de Dieu. Vous aimez peut-être la capacité de réflexion d'une autre personne, mais elles sont qu'un reflet de celui qui a une capacité encore plus grande. Vous aimez peut-être la présence de telle personne parce qu'avec lui ou elle, vous sentez aimé. Mais ça nous parle d'un amour encore plus grand. Voyez, tout ce qu'on peut observer en fait ici-bas et qui nous réjouit, qui sont des belles choses, ne sont qu'un reflet de Dieu en qui ces choses sont encore plus grandes, sont encore plus développées. Vous savez, il y a une fois un élément qui m'avait frappé. Dans un zoo, je me suis retrouvé à, je pense, un demi-mètre de la tête d'un tigre. Et alors, il y avait une vitre entre deux, c'est ce qui m'a rassuré. Mais j'avais ses yeux juste devant. Et ses yeux étaient impressionnants. Une sorte de souveraineté. J'ai personne à craindre. Un calme. Et je me disais, mais c'est pas possible. En fait, ça nous parle de quelqu'un au-dessus. Ses yeux, il nous parle d'une souveraineté plus grande, en fait. Au travers de ses yeux, ça me parlait pour moi de Dieu, qui est ce Dieu souverain, majestueux, qui n'a rien à craindre, en fait. Enfin, voilà, c'est juste une image où, finalement, les choses qu'on voit dans la création, c'est le monde de Dieu, en fait. Donc, automatiquement, ces choses nous parlent de lui. Et quand on est émerveillé par quelque chose de bon dans la création, eh bien, à plus forte raison, ça nous parle de celui qui est l'auteur de cette création. Alors non, ce n'est pas par ennui ou dépit que nous louerons Dieu, mais par émerveillement et une adoration venant directement de notre cœur. Et ça nous épanouira. On sera heureux, on sera profondément heureux de louer Dieu. Mais ce n'est pas tout. Dans ce passage, Pierre nous parle de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. Il n'est pas question, en fait, d'un lieu blanc où on flotterait sur des nuages. Imaginez si cette terre, qui est touchée par la chute, garde encore de si belles choses, et l'être humain est capable encore, malgré la chute, d'y faire des si belles choses. Alors imaginez avec une nouvelle terre et des nouveaux cieux qui ne seront pas touchés par la chute, et avec des êtres humains qui vivront dessus qui ne seront pas touchés par la chute. C'est bien loin du nuage blanc dans lequel on flotterait tous ensemble. Au milieu d'un vide comme ça. Au chapitre 1, verset 4, Pierre nous a dit que par l'œuvre de Christ, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données. Et je pense que Pierre avait cette promesse-là en tête, cette promesse qu'on a lue en fait dans Ésaïe 65 avant de commencer la prédication, cette promesse des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. En conclusion de ce passage, quelle application ? Les choses d'ici-bas ne sont pas mauvaises en soi. Ce n'est pas mal d'être le président d'un pays ou d'avoir du respect pour cet homme. Ce n'est pas mal d'utiliser l'intelligence artificielle, d'avoir une jolie voiture, un salaire confortable, encore une jolie maison, ou avoir la possibilité de faire un joli voyage. La question est, où est notre cœur ? S'il est dans ces choses, alors nous périrons, car aucune de ces choses ni personne ne peut nous protéger du grand jour du jugement qui arrive ou nous donner accès aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre. Par contre, si notre cœur, notre confiance est en Jésus premièrement, alors nous serons gardés au jour du jugement. Notre grand frère sera garant pour nous. Mais en attendant, c'est vrai qu'on aura encore à lutter activement avec le penchant de notre cœur à s'attacher aux choses de ce monde ici-bas. Et c'est pourquoi c'est important qu'on se rappelle que ce monde prendra fin, que le Seigneur va revenir. Peut-être que vous avez perdu des choses. Vous avez peut-être perdu une somme d'argent, perdu un travail ou perdu quelque chose d'important à vos yeux. C'est aussi cette perspective qui est de nature à nous aider, en fait, à voir, oui, ça fait mal, oui, ça peut être difficile, mais c'est temporaire. Notre Dieu est souverain, il maîtrise notre vie, et un jour, ce monde prendra fin. Et c'est les nouveaux cieux et la nouvelle terre qui nous attend. Maintenant, la question, c'est cette perspective de ces nouveaux cieux et de cette nouvelle terre, comment est-ce qu'elle doit impacter notre vie ? Comment ces nouveaux cieux et ces nouvelles terres qui arrivent, cette nouvelle terre qui arrive, la fin avec le jugement doit nous impacter. Ce qu'on a vu jusque-là, en fait, c'était les indicatifs. Cette notion, voilà, c'est un fait. Le Seigneur revient, ce sera accompagné de son jugement et des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Et maintenant, les réalités indiquées dans la parole auxquelles... Enfin, pardon, ça c'était les réalités indiquées dans la parole auxquelles on ne peut rien changer. Et maintenant viennent la partie des impératifs qui doivent toujours se reposer sur les indicatifs. Puisque tout ceci est vrai et nous attend, alors comment est-ce que ça doit influencer ma vie aujourd'hui ? C'est les versets 11, 12a, donc la première partie du verset 12 et 14. « Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache et sans défaut dans la paix. » Donc, en résumé, il y a trois points. Une conduite et une piété sainte. Attendre et hâter la venue du jour de Dieu. Et s'efforcer d'être trouvés par lui sans défaut et sans tache dans la paix. Donc, la perspective du retour du Christ, accompagnée par le jugement de la terre et de ce qu'elle contient, suivie de la nouvelle création, doivent nous amener à vivre une vie sainte, premièrement. Et c'est intéressant de s'arrêter sur ce que signifie la sainteté. Ce terme contient un double sens, mais le premier sens, c'est le fait d'être mis à part pour Dieu, d'être consacré à Dieu. Avant la notion de perfection, avant la notion de pureté, le premier sens est vraiment celui d'être mis à part pour Dieu, d'être à part. Les premiers chrétiens s'appelaient d'ailleurs entre eux les saints, parce qu'ils étaient consacrés à Jésus-Christ et lui appartenaient. Et c'est encore notre cas aujourd'hui. Et le deuxième sens, qui pourrait justement contenir cette notion, enfin qui contient cette notion de pureté, donc dans son premier sens, la sainteté, je ne sais pas si vous faites déjà le lien, mais vient contraster avec ce monde qui va à sa perte tel que Pierre vient de nous le décrire. Alors, à qui vais-je me consacrer ? À qui vais-je abandonner mon cœur ? En qui vais-je mettre ma confiance ? Pour qui est-ce que je vais vivre ? Pour ce monde ou pour Dieu ? Pierre nous dit « pour Dieu ». Pierre nous dit « puisque ». C'est ça les réalités qui nous attendent, alors soyons saints, mettons-nous à part pour Dieu et détachons notre cœur de ce monde qui va être détruit. Et puis, la perspective du retour de Christ, accompagnée par le jugement de la terre et de ce qu'elle contient, suivie de la nouvelle création, doit nous amener à nous efforcer d'être trouvés par le Seigneur sans tache et sans défaut dans la paix. Je crois qu'on comprend facilement, hein, les tâches et les défauts sont la conséquence du péché et de sa pratique. En fait, ce n'est pas la première fois que Pierre utilise ces deux termes ensemble dans cette lettre. La fois précédente, c'était au chapitre 2 et au verset 13, lorsqu'il décrivait les faux enseignants. Il dit qu'ils ne sont que défauts et tâches. Un enfant de Dieu qui est uni à Christ ne doit pas refléter ses faux prophètes et ses faux enseignants, mais son nouveau maître. Puisque Pierre le souligne à quatre reprises dans cet épître, Jésus n'est pas que Seigneur ou que Sauveur, mais il est Seigneur et Sauveur. C'est donc à celui à qui nous sommes unis que nous sommes appelés à ressembler. Que dire de la paix ? Là encore, c'est le péché qui amène le trouble dans nos cœurs. Il est à l'origine de la rupture de notre relation avec Dieu. La paix, avec un grand P majuscule, ne se trouve pas premièrement dans le fait de ne plus pécher. On en est bien incapable. Mais la paix se trouve dans la réconciliation qu'on reçoit avec Dieu en Jésus. Désormais, on est en paix avec Dieu. Malheureusement, le péché va continuer à faire partie de nos vies et à troubler nos cœurs. Mais on a désormais la paix avec Dieu et la promesse qui nous est donnée en 1 Jean 1,9 que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Pour nous chrétiens, la paix est toujours à portée de main. Ne gardons pas un péché non confessé. David, après son adultère avec Bathsheba, a fait l'expérience de garder ce péché non confessé. Et il va décrire dans le psaume 32 les effets de ce péché tant qu'il le gardait en lui, tant qu'il le gardait caché au fond de lui. Et ensuite, il va dire la libération, la paix, si on reprend les termes de Pierre, qu'il va retrouver une fois qu'il l'a confessé à Dieu parce que Dieu a enlevé son péché. Donc, veillons à nous préserver des souillures de ce monde et lorsque nous chutons, à préserver notre paix, cette paix que Dieu nous donne en confessant ce péché à Dieu. Et il y a aussi une place pour confesser les péchés les uns aux autres. Pas comme une pénitence, ni comme une formule magique, ni en criant à qui veut bien l'entendre quels sont les derniers péchés que j'ai eus. Mais il est important d'avoir des personnes avec qui on peut partager aussi ces péchés, ces luttes qui nous tiennent peut-être depuis un certain nombre d'années dans nos vies. Sachons surtout qu'on ne sera pas jugé par ce frère ou cette sœur, car il, elle, aussi est sauvé par grâce et a un besoin constant du pardon du Seigneur. C'est aussi une façon de rester authentique et de se garder de l'orgueil spirituel. Et puis le troisième point dans ce deuxième chapitre, la perspective du retour de Christ, accompagnée par le jugement de la terre et de ce qu'elle contient, suivie de la nouvelle création, doit nous amener à attendre et à hâter la venue du Seigneur. Est-ce que vous saviez qu'on pouvait hâter la venue du Seigneur ? Moi, je ne le savais pas. C'est en étudiant cette lettre que j'en ai pris conscience. Or, comment ? Comment est-ce qu'on peut hâter le retour du Seigneur ? Ça, c'est l'autre question. Eh bien, je vois deux éléments qu'on trouve dans la parole. Le premier est que le Seigneur ne reviendra pas avant que le dernier élu soit venu à lui. Et donc, un moyen d'hâter le retour du Seigneur, c'est l'évangélisation. Parce que plus vite le dernier élu sera allé à Dieu, se sera repenti, aura placé sa confiance en Dieu, eh bien plus vite ce moment-là sera arrivé et donc le retour du Seigneur. Et l'autre, c'est la prière. On voit ça à plusieurs endroits dans la parole, mais on retrouve ça par exemple dans la prière du Notre Père. « Que ton règne vienne ». Jésus nous demande de prier ça. « Que ton règne vienne ». Donc l'évangélisation et la prière sont deux moyens de hâter la venue du Seigneur. Donc si on soupire après cette venue, eh bien voilà deux manières dont on peut se mettre en marche pour hâter, participer à ce retour. Bien sûr, elle reviendra quand Dieu l'a prévu. Mais en même temps, de nouveau, on retrouve cette responsabilité que Dieu nous donne aussi de participer à son œuvre. Et c'est l'occasion aussi de se rappeler d'une chose. Le délai de Dieu en lien avec son retour, est un acte de miséricorde de sa part. Comme Pierre le dit au verset 9, « Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut. » Ou comme il le dit encore au verset... Non, pardon, ça c'était le verset 15. Et au verset 9, « Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. » Le fait que le Seigneur ne soit pas encore revenu est un acte de miséricorde et de patience de sa part. Qui s'est converti dans les 20 dernières années ? Vous tous qui avez levé la main, si le Seigneur était revenu il y a 21 ans, on serait tous en enfer. Voyez, c'est parce que le Seigneur a patienté, a attendu encore que nous arrivions, et il y en a d'autres encore qui doivent arriver. Mais si le Seigneur était revenu il y a 21 ans, je pense qu'on était tous... Bon, peut-être pas tous déjà en vie, oui, si, je crois. Mais quoi qu'il en soit, on était en vie, mais pas forcément encore sauvés. Donc vous voyez que sa patience est un acte pour notre salut. Ainsi donc, la perspective du retour de Christ, accompagnée par le jugement de la terre, de ce qu'elle contient, suivie de la nouvelle création, doit nous amener à une conduite et une piété sainte, attendre et hâter la venue du jour de Dieu et s'efforcer d'être trouvé par lui sans défaut, sans tache, dans la paix. La conclusion de Pierre dans ce passage, c'est les versets 17 et 18. « Vous donc, bien-aimés, qui êtes prévenus, soyez sur vos gardes. De peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire, maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Bien-aimés, puisque vous êtes prévenus, soyez sur vos gardes. Pourquoi ? En raison de la présence des faux enseignants. Il a pris un peu plus d'un tiers de la lettre pour dénoncer les influences néfastes et perverses des faux docteurs. Et aussi en raison du mensonge ambiant auquel on est soumis dans ce monde et au sujet duquel il nous a entretenus au début du chapitre. Pierre a pris le temps de nous rappeler le véritable évangile du salut par grâce dans cette lettre. Que cet évangile véritable est accompagné d'un changement de vie dans lequel nous sommes appelés à participer en faisant tous nos efforts. Comme Timothée aime le rappeler, Dieu nous accueille tels que nous sommes, mais nous aime trop pour nous garder tels que nous sommes. Une juste compréhension de l'évangile de grâce doit être accompagnée de cette croissance à l'image de Christ. Il nous a aussi rappelé que la Bible est la plus haute autorité, car elle est la parole de Dieu, et pour cette raison, elle est infaillible. Pierre l'a comparée à une lampe dans un lieu obscur. Imaginez que vous vivez dans un lieu sans lumière, dans lequel vous n'arrivez même pas à voir vos mains quand vous les mettez devant les yeux. Si tout d'un coup quelqu'un allume une lumière et vient vous la donner et vous permet tout d'un coup de voir l'environnement dans lequel vous vivez, ben certainement vous allez garder cette lampe et vous y attacher, la prendre partout avec. C'est cette comparaison que Pierre fait entre la Bible, qui est cette lumière qui éclaire nos sentiers, et cette lampe dans un monde obscur. Au début du chapitre 3, il a souligné l'importance d'une claire intelligence, une intelligence purifiée des mensonges de ce monde et des faux enseignants. Qui se souvient de quelle manière on purifie l'intelligence, selon Pierre ? C'est par la parole, exactement. En la lisant, en la méditant, en prenant Dieu au mot lorsqu'il annonce quelque chose, même si ça va dans un premier temps contre ce que je crois, selon ma propre sagesse, accepter de me remettre en question moi plutôt que la parole. Rappelons-nous que c'est nous qui sommes tordus, c'est pas la parole. Alors maintenant que nous sommes prévenus, soyons sur nos gardes. Ne nous laissons pas entraîner par l'égarement des impies, de peur de déchoir de notre fermeté. Bibliquement, les impies, c'est ce monde, et il est égaré. Nous devons rester sur nos gardes pour ne pas être entraînés dans cet égarement du monde. Mais attention, Pierre n'est pas en train d'affirmer qu'un chrétien peut perdre son salut. Cela irait à l'encontre de son propre enseignement qu'il donne dans la première épître. Chapitre 1, verset 5, « À vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu, par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Nous sommes gardés par la puissance de Dieu. Rien ne pourra nous arracher de sa main. » Ou encore, le verset 23 du chapitre 1 de sa première épître, « Vous qui avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. » Donc l'enseignement de Pierre, sa théologie est très claire. Un chrétien ne peut pas perdre son salut. Mais il nous avertit ici de nos propres faiblesses et des dangers qui nous entourent. Il veut nous préserver de chuter. Ça rejoint ce qu'il exprimait d'ailleurs au verset 10 du chapitre 1. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation et votre élection en le faisant vous ne broncherez jamais. Ce qui souligne d'ailleurs aussi justement la part active que nous on a à prendre dans cette persévérance. Ces efforts que la parole, en vue de notre croissance dans la sanctification, ont aussi pour bienfait de nous affermir dans notre vocation et notre élection. Ils nous préservent des chutes possibles. Bien sûr, ne tombons pas dans le piège de croire qu'on pourrait mener une vie sans péché, ici-bas. Mais dans sa grâce, le Seigneur utilisera ça et nous gardera de lourdes chutes. Mais alors qu'on va approcher de notre brève conclusion, attention. On a passablement parlé des efforts que le chrétien doit fournir. Je sais que ce que je vous ai amené peut vous donner l'impression d'avoir un peu quelque chose de salut par les œuvres. Mais comprenez bien que tout ça doit toujours se reposer sur les indicatifs, mais en même temps qu'à plusieurs reprises dans cette lettre, Pierre veut être très clair avec nous. Le salut est suivi d'œuvres. Non pas d'œuvres qu'on va faire nous-mêmes premièrement, l'Esprit va susciter en nous une nouvelle vie dans laquelle on est appelé à faire tous nos efforts. Donc nos efforts, les impératifs, doivent toujours reposer sur les indicatifs, sur ce que Dieu a fait pour nous. Mais non seulement ça, mais il faut aussi nous rappeler que c'est en Christ qu'on reçoit le nécessaire. Ce n'est pas par nous-mêmes qu'on est appelé à faire ces efforts, on doit aller chercher nos forces en Christ. Nos efforts doivent trouver leur force en Dieu en comptant sur sa puissance et non sur la nôtre. C'est pourquoi avant de rendre gloire à Dieu, Pierre va terminer en disant « Mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et en fait, ça nous rappelle un cercle vertueux que Pierre a commencé à planter dans le premier chapitre. Au verset 2, que la grâce et la paix vous soient multipliées, d'accord, comment ? Par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comment est-ce que je peux croître dans la grâce et la paix en croissant dans la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur ? Puis au verset 8, il nous dit, verset 3 d'abord, il nous dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété en nous faisant connaître. Celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc, c'est Dieu qui me fait connaître Jésus-Christ, par qui je reçois tout le nécessaire pour mener une vie de piété, dans laquelle je vais grandir. Et comment croître dans cette connaissance, par laquelle la grâce et la paix me sont multipliées ? Eh bien, c'est ce qu'on va retrouver au verset 8. Pierre vient d'expliquer les caractéristiques dans lesquelles on doit faire tous nos efforts pour grandir, puis il dit en conclusion, en effet, si ces choses existent en vous, elles ne vous laisseront pas, et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité, ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on voit vraiment que tout a été accompli par Dieu, tout nous est donné par Dieu, et dans ce cadre-là, il nous appelle à faire tous nos efforts, mais pas tous nos efforts en nous appuyant sur nous-mêmes, mais tous nos efforts en allant chercher en lui tout ce qu'on a besoin pour cette vie. Alors, je suis conscient que ce dernier passage aurait peut-être supporté deux prédications. J'ai été peut-être un peu au pas de course. Si c'est le cas, j'en suis navré. Quoi qu'il en soit, j'arrive à la brève conclusion. Pierre a éveillé beaucoup de souvenirs dans cette lettre, tous tirés de la parole. Il a mis une emphase particulière sur un souvenir, un élément que nous annonce la parole de particulier, c'est la promesse du retour de Jésus-Christ, nous montrant à quoi cette attente de son retour et cette perspective doivent nous amener. Maintenant, à nous de poursuivre cela par la lecture et la méditation personnelle de la parole, et par tous les moyens de grâce que Dieu met à notre disposition, notamment au travers de l'Église locale. N'hésitons pas aussi à revenir sur cette lettre. Elle est lue en une dizaine de minutes et représente vraiment un condensé de la manière de vivre sa vie en tant que chrétien dans l'attente du retour de Christ, pour être gardé aussi. Or maintenant qu'on arrive au terme J'aimerais simplement vous poser cette question du départ. Le retour du Seigneur a-t-il la place qui lui revient dans ta vie ?
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez entendre d'autres prédications ou profiter de ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.